voix nue. Cette semaine, Christine O'Krent s'entretient avec Jacques Séguéla. Ce soir, la pub mieux que le journalisme.
Bonsoir Jacques Séguéla, merci de nous accueillir à nouveau dans ce très beau bureau d'angle dans l'immeuble de Havas, à Puteaux, dans un bureau qui est véritablement envahi par les trophées gagnés au cours d'une longue carrière. Et quand vous nous racontiez votre enfance et la manière dont vous êtes devenu docteur en pharmacie en aimant mélanger les produits, la façon aussi dont votre mère a su éveiller votre appétit culturel, je me dis que vous avez en fait vécu dans votre jeunesse la naissance de ce qu'on peut appeler la société de consommation. C'était le début, après la guerre, quand la France se relève. Quel souvenir d'ailleurs avez-vous de la Deuxième Guerre mondiale ?
J'ai le souvenir de mon père partant à la guerre, de ma mère qui n'était pas en pleurs, qui était très courageuse. Moi j'avais 10 ans. J'ai le souvenir de mon père revenant de la guerre, parce que la guerre a été très rapide pour lui. Comme il était médecin, c'est pour ça qu'il est revenu sur Perpignan. Et j'ai surtout le souvenir de ces années de guerre où c'était le médecin du maquis de Perpignan qui recevait les juifs. Et donc, lui soignait les juifs qui passaient en Espagne, qui avaient traversé la France, etc., qui arrivaient très fatigués. Et il m'avait envoyé pendant 2 ans dans une ferme à 100 km de Perpignan où je gardais les vaches. Et mon plus beau souvenir de jeunesse, c'est d'être là au milieu des vaches. C'était tous les gosses du village, on était 7 ou 8 gosses. On se faisait nos feux, on allait déterrer des pommes de terre. On se faisait nous-mêmes notre petit repas de pommes de terre, de pissenlits. On arrachait des pissenlits, on faisait des pissenlits à l'huile au vinaigre. Et de caresser le cul des vaches. J'avais un côté Chirac avant de le connaître. Ça n'a pas duré.
Mais la libération, enfin encore que dans le sud...
Mais la libération, je me souviens de mon père, libérant Perpignan. Ils étaient une centaine à peu près, etc. Je me souviens surtout d'un jour où il est venu me voir dans la ferme où j'étais, où j'ai entendu un bruit sourd. Et c'est un pistolet qui était tombé par terre. Et c'est la première fois que je voyais un revolver de ma vie. Et c'est là où j'ai compris que mon père, médecin, avait une arme qui pouvait tuer un autre homme. Tout le drame de la guerre.
Ces années-là, donc les années, disons 45, 50, la France se relève péniblement, mais elle se relève malgré tout. Vous faites vos études de pharmacie. Je crois que vous devenez docteur en pharmacie en 1959.
Oui.
Donc en 59, c'est le général de Gaulle. Quel est votre souvenir politique de cette période ?
J'ai aucun souvenir politique. La politique ne m'intéressait pas. Je ne savais pas ce que voulait dire le mot publicité. Je ne connaissais pas le mot marketing. Et je ne connaissais pas le mot société de consommation. Perpignan, on a presque l'impression que c'était en dehors de la France. C'était une petite ville très heureuse, assez dévoyée, assez riche, très jouissive. Et donc c'est une vie qui vivait un peu en autarcie. J'étais coupé de tout ça. La seule chose, c'est que mon père était un pilote amateur et il avait son avion. Il avait un vieux stamp, etc. Et chaque année, il faisait le tour d'Afrique avec son stamp. Il revenait en héros et il y avait la photo en une, la photo de l'indépendance, mon père revenant de son tour d'Afrique, etc. Et j'ai voulu tuer mon père. Bon, mon obsession, c'était comment je peux résister à cet homme qui... Les femmes sont amoureuses, qui est beau comme un dieu, qui a la plus belle femme qui soit, ma mère, dans son lit, qui en plus était drôle, cultivée. Bon. Et c'est là où j'ai commencé à faire mon premier voyage en deux chevaux. C'était en 55. Comme j'ai été reçu major, mes parents m'ont offert une deux chevaux. Et j'ai décidé, cette deux chevaux, d'aller tout de suite la casser sur les routes d'Europe, d'Iran, du Pakistan, et faire un des tout premiers raids en deux chevaux, qui va mettre l'eau dans la bouche de ce qui va changer ma vie, la deux chevaux et le tour du monde.
La deux chevaux, déjà. Donc, on vous imagine, frais diplômé, et vous partez avec votre meilleur copain,
oui,
votre plus vieux copain.
On va fêter nos 80 ans d'amitié avec Jean-Claude Baudot. 80 ans d'amitié, il faut le faire. Hein,
donc, vous êtes connu à la maternelle, autrement dit.
On s'est connu à l'âge de 5 ans.
Et vous partez donc en deux chevaux Citroën. Vous avez dit un jour, beaucoup plus tard, j'ai deux amours, la pub et Citroën. Donc c'est à partir de là que se noue cette espèce de lien passionnel avec...
Absolument. Et c'est Citroën va changer ma vie, la deux chevaux va changer ma vie. Et 60 ans plus tard, je suis toujours le créatif un peu dans les placards, hein. Mais il ne se passe pas de grandes choses Citroën sans que je sois impliqué. Donc, si je n'avais pas fait ce tour du monde, j'aurais été pharmacien à Perpignan. D'ailleurs, mon père était en train de m'acheter la pharmacie du docteur Bobo. Ça ne s'invente pas. Elle existe toujours. Et j'étais fiancé avec la jeune fille qui était la coqueluche. Elle avait 17 ans. Elle était belle à mourir. Qui était la fille du marchand de chaussures huppé de la ville, qui s'appelait Groll. Donc, on était le petit ménage Bobo Groll. Bon. Et qui n'est autre que Dany, la chanteuse et l'actrice, qui a été mon premier flirt, qui est montée ensuite à Paris.
Et qui s'est occupée de fleurs, à un moment donné, je me souviens. Donc, ce voyage en deux chevaux, déjà, vous êtes très malin avec votre copain Jean-Claude Baudot, parce que, bon, vous essayez d'avoir des sponsors. C'était pas évident, l'époque, d'avoir cette idée.
Absolument. C'est mes débuts dans la publicité. À la fois parce que je recherche du sponsoring, et à la fois par exploit, entre guillemets. Mais c'était le premier. C'est parce que c'était le premier tour du monde d'une voiture que ça a eu un peu d'écho à ce moment-là. Mais surtout, avec Baudot, on a écrit à une centaine de sociétés, et il y en a une qui était le fabricant de joints de culasse. Et on a reçu par retour de courrier une lettre du président de la société qui a dit de deux choses l'une, ou vous êtes des escrocs, et ça se termine mal pour vous, où vous êtes complètement innocent et vous ne finirez pas ce tour du monde. Il n'y a pas de joint de culasse sur la deux chevaux. Il serait temps que vous le sachiez.
Il y a eu quelques péripéties que vous avez racontées donc dans votre premier livre, La Terre en rond, notamment de ne pas vous apercevoir que au Pakistan, on roule à gauche.
Oui, j'en ai la cicatrice encore ici, sur la joue. C'est Jean-Claude qui conduisait. Et on ne s'était pas rendu compte. On avait déjà fait près de 500 kilomètres dans le désert du Béloutchistan, qui est un désert magnifique, tout noir. Et je dormais, c'était lui qui avait pris le volant. Mais on ne savait pas que dans ce pays, qui était un pays anglo-saxon, on roulait à gauche ou à droite, je ne sais plus. Enfin,
et alors vous êtes allé jusqu'en Amérique du Sud, je crois, ou là?
Non, là on est allé jusqu'à Karachi. Et puis après, là j'étais en première année de pharmacie, j'ai fini mes trois années de pharmacie en préparant le tour du monde, qui était un tour du monde qui a duré alors deux ans, qui a fait les cinq continents, d'Alger le Cap, du Cap à Rio de Janeiro et au sud de l'Amérique du Sud, la remontée des trois Amériques, et puis le Japon. Avec la même deux chevaux, sans qu'on ait la moindre panne, par bonheur. On était incapable. On savait dévisser les bougies. Et on savait...
Changer une roue.
On savait changer une roue. Je me souviens qu'en Amérique du Sud, la route était terrible, etc. On a réussi à crever 40 fois en 48 heures. Parce qu'on avait des pneus d'un lop qui nous attendaient, je crois, tous les 15 000 kilomètres. Et les 500 derniers kilomètres, quand il fallait y arriver, on n'avait plus de gomme, on n'avait plus rien.
À un moment donné, vous n'avez tellement plus d'argent que vous allez poser comme mannequin dans une vitrine.
C'est au Japon. Parce que on était parti avec très peu d'argent, mais mes parents m'ont fait un cadeau formidable, c'est qu'ils m'ont maintenu ma prime d'étudiant. Mais la vie était beaucoup plus chère à l'autre bout du monde qu'elle l'était à Montpellier. Et donc, on faisait des petits boulots. Moi, j'étais cireur de chaussures. Parce que où qu'on soit dans le monde, il y a des riches qui ont des jolies chaussures et qui veulent qu'on les cire. Et ils aiment bien qu'on leur cire.
Enfin, c'était avant les baskets. Hein.
Voilà. Donc, moi, j'arrivais dans les hôtels de luxe, je mettais ma deux chevaux là, je sortais ma petite boîte de chaussures. Et puis, j'arrivais même pas à finir de cirer leurs chaussures parce que je liais conversation. Et ils m'invitaient à déjeuner ou à venir chez eux ou ils me glissaient un billet. Bon. Voilà. Et quand on est arrivé au Japon, on s'est aperçu que... C'était il y a 60 ans, on s'est aperçu que... Il était impossible de traverser ce pays, parce que ce pays ne parlait pas un mot d'anglais, et qu'on ne risquait pas de parler un mot de japonais. Et qu'on n'arrivait même pas à trouver un nom de rue. Donc j'ai dit, mais comment on va gagner notre vie là-dessus? J'ai dit, j'ai une idée, on va aller voir les galeries Lafayette du coin, les magasins Seibu, et on va leur proposer d'être des mannequins dans les vitrines, des automates, en mettant notre deux chevaux devant la vitrine. Et le président du magasin a dit, mais pourquoi pas, faites un essai. Et ça a été un tollé incroyable, etc.
Un succès fou.
Un succès fou. Et en une semaine, on a réussi à payer tout le voyage du Japon.
Il faut dire que vous étiez parti donc avec Jean-Claude Baudeau sous le prétexte d'études de plantes médicinales rares.
Oui, c'était ma thèse. C'était ma thèse. J'avais pas vu une plante. J'ai poussé la voiture pendant 2 ans. J'ai pas eu le temps de voir un marché de plantes médicinales. Et la faculté a été très gentille avec moi parce que je vais commencer à faire leur pub. Avec Baudeau, on écrivait tous les mois un article. C'est là que j'ai commencé à devenir un peu journaliste. Un article sur notre voyage dans le Midi Libre, un grand journal de Montpellier. Et chaque fois, je citais bien la faculté en disant, remerciant la faculté de nous avoir permis de ce voyage, etc. Donc, le doyen a accepté que je change de thèse. Et j'ai fait une thèse sur l'officine pharmaceutique à l'heure européenne, sur déjà le monde d'après de la pharmacie.
À vous entendre et à lire, à retrouver, j'ai retrouvé ce livre « La Terre est en rond » qui est sorti donc en 1960. Au fond, on se rend compte que ça a été la grande aventure de votre vie. Ça a été vraiment le tournant,
c'est le tournant
du monde.
C'est ce qui m'a fait défroquer de la pharmacie, qui était un métier qui n'était pas vraiment fait pour moi, et qui m'a ouvert d'abord les yeux sur le monde, qui est un village. On peut le traverser à 2 chevaux sans un sou. On vivait pour 1 franc par jour, de l'époque. Aujourd'hui, on dirait 1 dollar par jour. Et puis, qui m'a fait comprendre que on est toujours le sauvage de quelqu'un. Parce que vous êtes dans un désert. Quand on a traversé, par exemple, le Sahara, la première partie était à moitié goudronnée, mais la deuxième partie, c'était du fêche-fêche. Il y avait simplement un rail qui était planté dans le sable. Et quand il y avait le moindre coup de vent, il fallait s'arrêter tout de suite, sinon on perdait sa distance. On ne serait jamais arrivé si on n'était pas tombé à un moment donné sur un Touareg, qui était là à pied, on ne savait pas d'où il venait, qui l'a chargé dans la voiture et qui nous a remis sur la piste. Sinon, parce que nous, on avait une boussole. On ne savait même pas faire le point, même pas un sextant, on avait une boussole, parce que le GPS n'existait pas, le téléphone n'existait pas, et les hélicoptères qui d'habitude suivent ce genre de péripéties en voiture n'existaient pas non plus.
J'ai retrouvé une chronique de François Mauriac. Mauriac, à l'époque, écrivait une chronique sur la télévision dans l'Express. Et donc, il a écrit quelques lignes sur vous. Donc, ça s'intitule « La Terre est en rond », de Jean-Claude Baudeau et Jacques Séguéla. Ces deux garçons, écrit Mauriac, ont fait le tour du monde dans une 2 chevaux, gagnant leur vie comme ils pouvaient. « Gentil Jacques Séguéla », s'écrit Mauriac. Oui. Je le cite toujours. « Si peu nouvelle vague, direct et simple, il n'essaie pas de nous éblouir. Il ne l'a été lui-même par rien. Il ne voit aucune différence entre le carnaval de Nice et le carnaval de Rio. Les hommes lui ont paru partout les mêmes. Il a eu peur quelquefois, surtout au Congo belge, lorsqu'un éléphant les a chargés. » C'est du Mauriac, donc c'est pas d'une tendresse extraordinaire, parce que le côté gentil Jacques Séguéla, en gros, il vous prend pour un gentil zozo, quoi.
Non, rien ne peut me faire plaisir que l'adjectif gentil. Je suis gentil, c'est ma seule qualité. Je suis gentil, et à force de gentillesse, les gens deviennent gentils avec vous.
Vous avez d'ailleurs écrit...
Ma mère était profondément gentille. C'est elle qui m'a donné ce legs de la gentillesse. Je crois qu'on prend les gentils pour des imbéciles, pas du tout. Ce sont des gens simples qui pensent qu'il vaut mieux faire le bien que le mal, qu'il vaut mieux être heureux que malheureux, qu'il vaut mieux dire à une femme qu'elle est belle plutôt que laide. Et ça suffit pour faire une vie réussie.
Vous avez d'ailleurs écrit quelques années plus tard, et je trouve que c'est une formule qui vous caractérise à bien des égards. « Je n'ai aucune mémoire de ce qui me fait mal ou du mal que je fais. »
C'est vrai, c'est vrai. Je gomme tous les mauvais moments de ma vie. Moi, j'ai une autre doctrine. Je pense que la vieillesse commence lorsque les remords l'emportent sur les rêves. Donc je ne cultive que mes rêves. Et tout ce qui est cauchemar... Et rayé, je finis même par les oublier complètement, pour savoir que ce n'est même pas moi qui les ai vécus. Et parfois, je me dis, mais quand même, c'est vrai, c'est imbécile, c'était toi.
Quand vous rentrez de votre tour du monde, vous retournez chez Citroën.
Oui, je vais frapper à la porte de Citroën, et c'est eux qui vont d'ailleurs m'aider à écrire le livre. J'avais jamais écrit un livre de ma vie, d'un garçon qui s'appelait Jacques Volkensinger, qui était le patron de la presse Citroën, et Claude Puech, qui était le patron de la communication de Citroën, qui me recueille. Donc, Volkensinger va d'abord me dire, il va me donner la liste des 100 livres à lire. Parce que ma mère m'avait donné le goût de la lecture, mais en bon enfant de province, je n'avais lu pratiquement aucun livre. Lui va me faire lire en 3 ans les 100 livres de la littérature française de l'époque. Il y en a beaucoup qui resteraient encore dans les 100 livres d'aujourd'hui. Et qui va me faire donc un peu ma formation intellectuelle, parce que moi j'étais un nigaud arrivant de Perpignan, jouant à la pétanque, allant pêcher des petits poissons au gouffre. Je n'avais rien fait d'autre de ma vie, tout en ayant fait un tour du monde, presque par hasard, sans bien me rendre compte d'ailleurs de ce que je faisais. Et donc, ça va être mon éperon dans la vie.
Et donc, ce sont Claude Puech en particulier, et donc...
Volkensinger va me tenir la plume, c'est-à-dire que moi, je vais toute la journée écrire des choses un peu informes, que je vais lui amener le soir, sa femme nous fait un plat de spaghettis, et jusqu'à minuit, 1h du matin, il va re-writer le livre. Et il va me rendre comment on fait un livre. Et c'est grâce à lui que j'en suis à mon 33e. Merci Jacques, je ne te remercierai jamais assez. Mon seul pouvoir, c'est le poids des mots. J'ai une propension au slogan, qui va me coûter cher dans la Rolex. Hein. Bon, mais c'est plus fort que moi, je ne le fais pas exprès. J'essaye de me corriger, mais les slogans viennent d'eux-mêmes. Quand un annonceur me briefait à l'époque, il voyait que je prenais des notes, il pensait que j'écrivais sous la dictée. Pas du tout, j'écrivais à la campagne, moi. J'écrivais déjà le slogan, etc. Et je n'en avais pas d'autre. J'en ai un immédiat, et après, je suis incapable d'en avoir un second. J'arrive à l'agent, écoutez, voilà ce que j'ai trouvé. Si vous trouvez mieux, formidable, on y va. Sinon, on prend ça.
Mais c'est parce qu'il détecte ce talent en vous que ces gens de Citroën vous dirigent vers votre premier employeur.
Absolument, absolument. C'est-à-dire que quand le livre de La Terre en Rond est sorti, il a eu un prix littéraire, qui est un prix qui comptait à l'époque, etc., le prix de la littérature sportive, qui m'a été donné par le ministre des Sports de l'époque, qui était Herzog, le premier
ministre.
Oui, premier ministre. Et le livre est arrivé sur le bureau du patron de match, qui a dit à Castan, hein, qui était Prouveau, qui a dit à Castan, engagez-moi ces deux globe-trotteurs. Ils doivent être moins chers que les reporters habituels. J'étais le seul engagé parce que, hélas, Jean-Claude Baudot, lui, avait 25 ans.
Et donc l'ami avec lequel vous étiez parti.
Il partait au service militaire, obligatoire. Moi, comme j'étais sur Citer parce que j'étais pharmacien, j'avais 2 ans de plus. Donc c'est les 2 ans que j'ai pu utiliser pour découvrir le journalisme à Paris Match.
Donc Jean Prouveau, Roger Théron, déjà,
absolument,
à l'époque. Votre université en communication, avez-vous dit plus tard.
Absolument. C'est d'ailleurs celui que j'appellerai patron toute ma vie, qui est l'auteur d'ailleurs du slogan « Le poids des mots et le choc des photos », mais qui lui va me donner le poids des mots. Gaston Bonheur, j'aurais la chance de travailler à côté de Gaston, a commencé à me donner le poids des mots. Mais lui, il n'avait pas le poids du titre, il avait le poids de la beauté des mots. Moi, j'ai le poids de la violence des mots, parce qu'un slogan, c'est toujours violent.
Et la violence des slogans et la titraille, ça, vous allez l'apprendre auprès d'un géant de la presse française,
Pierre Lazareff,
qui a écrit une partie de l'histoire du journalisme français.
Pierre Lazareff, et je me souviens d'une journée où...
Pierre Lazareff, à l'époque, patron de François.
Patron de François, créateur de François, patron de François. Et je me souviens d'un jour où... Parce qu'à l'époque, Lazareff avait inventé le test de la une. C'est-à-dire qu'il avait 10 kiosquiers à Paris à qui il téléphonait, ou il faisait téléphoner à 10h du matin pour savoir quelles étaient les premières ventes de François. François faisait ses ventes sur sa couverture. Et si les ventes n'étaient pas bonnes, on pouvait changer le titre parce que la grande édition sortait à 1h. Et donc, à 10h30, quand ce n'était pas bon, il nous réunissait, on était 4 ou 5, etc. Moi, j'avais la chance de faire partie de... Et on avait 5 minutes chacun pour écrire un titre. Et je me souviens d'un jour où chacun en écrit un titre. Comme j'étais le plus jeune, c'est moi qui montais les titres. Je montais, j'avais gardé celui de Pierre pour la fin, etc. Et tout était nul, etc. Et le rédacteur en chef disait, mais Pierre, on ne peut pas titrer, il n'y a pas d'info. Et Lazareff lui dit, quand il n'y a pas d'info, on la crée. Et moi, je sors son titre, c'était brrr, sur 8 colonnes. C'est simplement le jour le plus froid de l'année. Et il a inventé la météo. C'est Pierre Lazareff qui a inventé la météo. Si la météo aujourd'hui est le programme le plus regardé en France et d'ailleurs du monde, c'est parce qu'un jour, il a eu l'idée d'en faire la une de François. C'était un génie absolu. Et quand j'ai eu 30 ans, il m'a invité au Fouquet's, curieusement. J'ai compris après que c'était un peu un déjeuner de carrière. Bon, parce que lui, il avait été très ému par mon tour du monde. Il avait aimé le livre, donc j'avais... Bon, c'était un maître.
Il avait de la tendresse.
Il avait de la tendresse, bon. Et il m'a dit, bon, qu'est-ce que tu veux faire maintenant dans le journalisme? Est-ce que tu veux aller à elle? Qu'est-ce que tu veux faire? Je dis, mais pas du tout. Moi, Pierre, je veux créer un groupe pour détruire le vôtre. Je veux créer ma boîte. Il a dit, mais tu es fou. C'est pas dans la presse que tu peux réussir. Et il m'a dit une phrase terrible, il y a 40 ans. François va mourir. La manchette de François, c'était le seul quotidien qui tira plus d'un million d'exemplaires. Et il savait qu'il allait mourir. Il m'a dit, va dans un métier neuf. Va dans la publicité. J'ai dit, mais je ne connais rien de la publicité. Mais ils ne connaissent rien, ils sont nuls. Au contraire, tu vas leur apporter quelque chose. Bon, il m'a dit, d'ailleurs, regarde Blunstein, il est 20 fois plus riche que moi, il en fait 20 fois moins.
Blunstein-Blanchet, qui avait créé
Publicis
après avoir créé Radio Paris, me semble-t-il, pendant la guerre. Et vous avez dit de Pierre Lazareff, il était petit et laid, et je n'ai jamais connu d'homme plus grand et plus beau.
C'est vrai. Il rayonnait d'intelligence. Lui aussi avait cette magie des mots extraordinaire. Il était, dans sa laideur, avec ses bretelles, d'un charme foudroyant. Et d'ailleurs, il était déjà très fatigué, il avait un cancer. Il devait avoir 75 ans, juste comme ça. Et il emballait encore les petites minettes de 20 à 25 ans. Et je me souviens un jour d'avoir fait chapeau. Pour aller au cinéma.
C'est quoi, faire chapeau ?
Faire chapeau, c'est ne pas aller travailler. C'est une expression perpignanaise. Mais bon. Et je passe devant l'avenue de la Grande Armée, il y avait un cinéma à l'entrée, quand on descendait à droite. Je passe devant le cinéma, et il y avait un western, je voulais absolument le voir. Donc je garde ma voiture, je vais au cinéma, il y avait un premier étage. Il y en était dans des grands fauteuils comme ça. Arrive l'entracte, je me trouve à côté de Pierre Lazareff, avec une très jolie fille. Je me fais tout petit, etc. Je ferme ma gueule, etc. Bon. Et puis le lendemain, il me dit, Séguéla, quand on va au cinéma, plutôt que d'aller faire son boulot, on commet une faute. Moi, quand je vais au cinéma et que je suis avec une jolie fille, Séguéla, c'est parce que demain, on va titrer Le mariage de Bardot. C'était la sœur de Bardot.
Donc c'était pour l'info.
C'était pour l'info.
Comment se fait-il que Lazareff, qui animait aussi 5 colonnes à la une à la télévision, c'était les débuts de la télévision, oui. Comment se fait-il que vous n'ayez pas été attiré par ce métier neuf ?
Mais il m'a envoyé à 5 colonnes, voire de Grop et du Maillet. Et j'ai dit, écoutez, moi, est-ce qu'un jour il y aura les télévisions privées ? Et Lazareff m'a dit jamais. Dans ce pays, il n'y aura jamais de télévision privée. Donc j'ai dit, mais ça ne m'intéresse pas, je veux créer ma boîte. Et c'est là où il m'a dit, mais si tu veux créer ta boîte, va dans la pub.
Alors avant d'aller dans la pub, il fallait quand même aller faire la guerre. Parce qu'on n'a absolument pas parlé politique. Vous nous avez expliqué d'ailleurs déjà à quel point la politique ne vous a en fait jamais intéressé. On va voir quand même que ça a changé au fil du temps. Donc on est quand même en pleine guerre d'Algérie.
On est en pleine guerre d'Algérie et arrive mon tour de partir au service militaire.
Et ça durait 28 mois.
Hein. 28 mois. Ça a été la promotion la plus longue. Mais j'ai une chance folle de me retrouver dans la même chambrée que Philippe Labreau, qui à l'époque était le chouchou de Lazareff, et qui était le jeune journaliste qui avait tout réussi, qui avait déjà écrit un premier livre sur Al Capone, je crois, avec Jules Jacquin, Emmanuel.
Le réalisateur, quelques années plus tard.
Le réalisateur, etc. Et avec
Francis Weber,
qui va devenir le grand cinéaste. Et j'étais le quatrième. Comme j'étais le plus âgé, je vais être nommé pour 15 jours, mais ça va durer 28 mois, rédacteur en chef du journal qui s'appelait Terre, Mer, Tam. Et donc, je vais avoir sous ma coupe Labreau, qui me le pardonnera jamais, qui était vraiment facile à bâtir, Jules Jacquin, qui était maquettiste à Match, d'ailleurs, et j'ai dit, maquettiste et sans avenir, devient photographe. Et je lui fais faire sa première photo. C'était sur un cirque. Et je lui ai dit, tu vas dans le cirque, tu te mets dans le petit couloir par lequel arrivent les fauves. et tu prends le fauve au moment où il arrive sur toi. Et t'inquiète pas, il va y avoir tout de suite une grille qui va tomber. Il a fait la photo était complètement floue. Mais elle était admirable. Et on a fait une double page. Et c'est comme ça qu'il a inventé le flou photographique. Qui était simplement un flou de trouille. Pas un flou artistique.
Et la guerre et dans puis, tout ça, la guerre d'Algérie.
Et puis Weber, avec qui j'ai commencé à écrire son premier script. On l'a jamais fini. Et la guerre, elle était en Algérie. Elle était en fin de guerre. On était des reporters de guerre. Mais des reporters de guerre nantis. Car les reportages se passaient à Alger et on n'allait jamais sur les lignes.
Jacques Séguéla, merci. À très vite.
Vous retrouverez demain la suite de cet entretien de Christine Ockrent avec Jacques Séguéla. À voix nue, prise de son Fabien Gosset, Arthur Dumont, réalisation Media Portis Guérin, François Connac, attaché d'émission Daphné Abgral, coordination Sandrine Trainer. À voix nue se réécoute et ce podcast sur franceculture.fr.